Ah, bonjour, plaisir de vous voir. Merci Virginie et puis ceux qui étaient avec pour ces pensées. La bienveillance est une belle chose, on en a besoin. Et puis c'est important de se rappeler que la bienveillance ne nous amène pas plus bas que le légalisme, mais plus près dans la pureté. Si quelque chose peut nous faire changer, si quelque chose peut nous débarrasser du péché, c'est pas la condamnation, c'est pas la peur, c'est pas la crainte, c'est la bienveillance. Donc il faut pas s'imaginer que la bienveillance c'est bon, on baisse le standard et puis on dit que c'est bien quand on vit dans le mal. Hein. Le papa a pas dit au petit garçon, bah tu sais après tout ça sent pas si mauvais que ça. Si tu marches dedans tous les jours, tu finiras par t'y habituer. Hein. Par contre, je pense que c'était plus efficace que s'il avait pris une fessée pour ne pas y retourner. Parce que quand on reçoit une fessée, on se dit, bon, c'est bon, j'ai payé, je peux refaire. Mais la bienveillance nous désarme. Et c'est magnifique. Et c'est lié aussi avec ce que je vais vous partager ce matin. Je voulais commencer avec un texte de la Marc 9, 33. Vous allez voir comment les disciples nous ressemblent, comment nous leur ressemblons, comme vous voulez, c'est pareil dans les deux sens. Donc, ils arrivèrent à Capernaum, une des villes dans lesquelles ils se déplaçaient. Lorsqu'il fut dans la maison, Jésus demanda aux disciples « De quoi discutiez-vous en chemin ?» Mais ils gardèrent le silence, comme les enfants. Hein. Vous savez, quand vous arrivez à la maison et puis vous sentez qu'ils sont tout tranquilles, là. Qu'est-ce qui s'est passé quand on n'était pas là ? Rien. Aïe, c'est là que c'est dangereux, quoi. Mais ils gardèrent le silence, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Ah, qui est le plus grand ? C'est le sujet préféré des êtres humains. Peu importe le domaine, c'est peut-être différent pour les hommes, pour les femmes, pour les enfants, pour les personnes âgées, pour les jeunes. Mais c'est la question qui occupe le plus l'être humain. Qui est le plus grand ? Où je suis dans la hiérarchie. Lui, il est meilleur, mais il est moins bon. Lui, il est plus beau, mais je suis plus beau que lui. Lui, je suis plus fort, lui, il est moins fort. L'être humain est comme ça. Dès qu'il arrive quelque part, il a besoin d'essayer de se situer pour savoir où il est, hein, qui est le plus grand. Et puis, ben, les disciples étaient des êtres humains, donc ils étaient pareils. Qui est le plus grand ? Ils voulaient savoir. Et Jésus leur répond en disant, ben, il prend un petit enfant, il le met là au milieu, et puis il dit... Vous voulez savoir qui c'est le plus grand ? Ben, c'est celui qui accueille à mon nom un de ses petits-enfants. Parce que celui qui l'accueille à mon nom, c'est moi-même qui l'accueille, et celui qui m'accueille, il accueille celui qui m'a envoyé. Alors on a un lien intéressant ici entre être grand et accueillir. Mathieu a tout compris ce matin, je pense, voilà. Il a un petit bébé dans les bras, c'est parfait. Il lui a fait de la place. Accueillir, qui selon les traductions est aussi c'est traduit par recevoir, prendre et même embrasser. Hein. Tout ça, c'est le même sens, c'est accueillir, recevoir, prendre, embrasser, laisser venir. Pour recevoir, pour accueillir, pour prendre dans ses bras, pour ce que vous voulez, il faut qu'il y ait de la place. Hein. Et ça m'a amené à Il y a une pensée qui n'est pas directement dans la Bible, mais qui en ressort, qui a été développée au XVIe siècle par un théologien juif de la Kabbale, on appelle ça comme ça, mais qui est très intéressante. Il dit, Dieu est infini. Hein, et puisque Dieu est infini, normalement, il occupe toute la place. Ce qui est infini n'a pas de limite. Donc, pour que Dieu puisse créer l'univers, il a fallu qu'il se retire. Qu'il crée un endroit, ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas parmi nous aujourd'hui, hein, mais d'une certaine façon, pour comprendre ça, pour que l'univers existe, il fallait que ce Dieu infini se retire en lui-même pour laisser de la place à autre chose que lui. Parce que Dieu occupait tout. Hein, et puis il pouvait occuper tout, parce qu'il est Dieu et que c'est comme ça. Et il s'est retiré. On pourrait dire que Dieu a laissé libre un grain de poussière, hein. Et puis ce grain de poussière, c'est notre univers, et puis Dieu est quand même tout. Hein. Mais dans cet endroit-là, il s'est retiré pour faire de la place à quatre choses que lui-même. Et puis il a créé le temps, l'espace, l'univers, et puis nous. Et nous, on est là. Et en fait, depuis ce moment-là, toute l'histoire de notre relation entre Dieu et les humains, enfin, lui et nous, c'est une question de accueillir ou pas, y a-t-il de la place ou non. Ce que Dieu a fait, et c'est d'ailleurs intéressant de penser qu'avant même de se révéler à nous, avant même de nous manifester sa présence, pour que tout soit possible, il a fallu qu'il se retire en lui-même. Je parle de façon imagée, hein, bien sûr. Dieu n'est pas un être humain avec un corps, mais d'esprit, et créer cet espace dans lequel nous, on pouvait aussi exister. Quoi. Et en réponse à ça, Dieu a laissé la possibilité à l'être humain de créer un espace pour l'accueillir, lui. Et si on fait un survol de l'histoire de l'humanité, c'est assez tragique, parce que comment ça commence ? Ben, Dieu a créé l'univers, le temps, l'espace, etc. Et puis il y a les premiers humains, et à ce moment-là, Dieu avait une relation avec eux, j'allais dire, toute naturelle. Hein. Mais à un moment, qu'est-ce que fait l'être humain ? Il refuse la place à Dieu en lui-même. Il le chasse de lui-même. Hein. Il ne lui accorde plus cet espace. Et Dieu, à partir de ce moment-là, ne va plus être... bien sûr, on est toujours des enfants de Dieu, des créatures de Dieu, mais cet espace qui était le temple de Dieu en nous, il devient vide de Dieu et occupé par autre chose, essentiellement par nous. Hein. Je, me, moi, la trinité de l'être humain. Et Dieu est à l'extérieur, façon de parler. Hein. Et quand on regarde toute l'histoire, ben, Dieu envoie les prophètes. Et que fait le peuple de Dieu aux prophètes ? Ben, il les rejette. Hein. Jésus le dit, voilà, les prophètes, vous les avez lapidés, rejetés, tués, pas écoutés, etc., mis dehors. Et puis, le Fils vient sur terre. Et comment Jésus arrive sur terre ? Il n'y avait pas de place pour lui dans l'hôtellerie, nous dit le texte. Alors là, c'était dans le monde visible, physique, mais ça illustrait bien comment l'être humain se situe vis-à-vis de Dieu. Il vient sur terre et il est accueilli où ? Avec les animaux. Parce que la création de Dieu a de la place pour Dieu. La création, ce qu'on appelle la nature aussi, hein, ce que les non-croyants appellent tout le temps la nature, hein, sans expliquer vraiment pourquoi elle est aussi intelligente, elle a de la place pour Dieu. Dieu se parle par la nature, parce que dans la nature, chaque chose est à la place que Dieu a voulu pour lui. Bon, nous, on arrive à la détruire, mais si on la laisse tranquille, elle fonctionne comme il faut. Mais il n'y avait pas de place pour Jésus-Christ dans l'hôtellerie. Et puis, ben, il a grandi, et lorsqu'il est entré dans son ministère, hein, les êtres humains, et si j'avais été là, j'aurais fait partie de cela, hein, ont décidé qu'il n'y avait pas de place pour lui sur cette terre, et on l'a mis à mort. Hein. Ben, il n'y avait pas de place pour lui dans la mort, ça c'était une bonne chose. Et il est revenu à la vie. Hein. Et en fait, on est de nouveau, encore et toujours, dans la même situation où Dieu cherche une place. Alors, bien sûr, il aurait pu l'imposer, il peut y faire ce qu'il veut, hein. Il pourrait reprendre le contrôle de tout, obliger, forcer, mais il ne veut pas ça. Et on a ce verset qu'en général, on utilise uniquement ou essentiellement pour parler aux gens qu'on appelle non-croyants, hein, qui se trouvent dans l'Apocalypse. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Hein. » Mais lisez le contexte, c'est l'Esprit de Dieu qui parle à l'Église. Ce n'est pas pour des gens qui ne croient pas et puis qui doivent accepter que Christ vienne dans leur cœur. Si on fait ça, ce n'est pas faux. Hein. Oui, effectivement, pour eux aussi, ils veulent le faire. Hein. Mais le contexte précis, là, Dieu parle à des croyants, à des gens qui connaissent Dieu. Et Jésus dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai et je souperai avec lui et lui avec moi. Hein. Prendre un repas ensemble, ce signe de communion, d'intimité, de partage, de... Voilà, on se laisse aller autour d'une table ensemble parce qu'on est en sécurité. Mais pour ça, il faut que je laisse rentrer la personne. Donc, il y a toute cette question de faire de la place. Et par définition, l'amour, c'est faire de la place à l'autre. Si vous vivez dans un appartement tout seul et puis qu'à un moment, vous avez un colocataire ou peut-être vous vivez et puis ben, vous allez vous marier et l'autre personne vient vivre avec vous dans le même appartement... vous allez devoir faire de la place. Avant, il y avait mes affaires sur le lavabo, et puis maintenant, ben, il faut qu'une partie du lavabo soit libre pour la brosse à dents de l'autre et ses produits à lui, et son rasoir si c'est un homme, ou ses petits produits si c'est une femme, autre, et les huiles, machin, et trucs. Et puis les armoires, ben, il va falloir faire de la place. Il faut, pour accueillir, il faut faire de la place. Et ce qui est compliqué, c'est que quand Jésus dit que être le plus grand, c'est pas un bon but, alors, on en a tiré une drôle de façon de penser, qui est fausse aussi, c'est « Oh, je dois être petit ». Mais dans le sens, hein, si je suis une femme, je dois être moche. Si je suis un homme, je ne dois pas être trop intelligent, je ne dois pas réussir, je ne dois pas être brillant, je ne dois pas... Et puis ça, ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu a créé les femmes belles pour qu'elles soient belles. Il nous a donné l'intelligence pour qu'on l'utilise. Si on peut, bien sûr, honnêtement, dans un bon domaine, réussir, mais on doit réussir. Si on peut faire quelque chose de brillant, on doit le faire. Dieu n'est pas un Dieu de la médiocrité qui est content parce qu'on reste tout petit dans le sens où on ne développe pas nos dons, on ne développe pas qui on est, on reste nul, médiocre, en se disant « ça fait plaisir à Dieu ». Mais non. C'est pas parce que Dieu est jaloux que si on devenait grand, on lui ferait de l'ombre. Hein ? C'est tellement ridicule comme façon de penser. Mais malheureusement, c'est un peu ce qui est induit dans souvent notre façon de voir. Et puis, c'est en tout cas comme ça que souvent les non-croyants voient les chrétiens. Hein. Ah ouais, ils n'ont pas le droit d'être heureux. Ils n'ont pas le droit de se dévouer. Ils n'ont pas le droit de réussir. Ils n'ont pas le droit d'être beau. Ils n'ont pas le droit d'être intelligent. Ils font toujours comme ça. Ça fait plaisir à leur Dieu de les humilier. Non, c'est, Dieu n'est pas comme ça. Hein. Mais on peut donner cette image-là. Mais en même temps, c'est compliqué parce que, naturellement, en tant qu'être humain, j'ai tendance à occuper toute la place disponible. Hein. Et puis, à l'intérieur de nous, c'est comme ça. On n'a pas trop le choix. Vous savez, tous les enfants, quand ils viennent au monde, à partir du moment où ils commencent à être conscients, on a tous ce sentiment que le monde a commencé avec nous. Je ne sais pas si vous vous rappelez, moi je sais que j'avais toujours du mal à imaginer, quand je parlais avec mes parents et mes grands-parents encore plus, les périodes avant ma naissance. Ouais, ça n'a pas vraiment existé, quoi. Hein. C'est, voilà, un jour, je suis arrivé, et puis, bon, il fallait qu'il y ait des parents pour s'occuper de moi, mais il n'y avait rien avant, quoi. Hein. Et puis, sans y réfléchir, on grandit comme ça, et puis, je suis le centre de l'univers, je suis la raison pour laquelle le monde tourne, et puis, le soleil brille pour moi, la pluie est là pour moi, et puis, tout est là pour moi, l'église est là pour moi, Dieu est là pour moi, et puis, je suis au centre de cet évangile de... selon moi, hein, vous savez, la trinité du je, me, moi, et puis tout est là pour aimer moi les uns les autres, etc. Mais en même temps, on ne sait pas trop comment faire, parce que quand on décide de devenir humble, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut être le plus humble de tous. Hein. Donc c'est la même chose. Même dans l'humilité, on veut être le plus grand, quoi. Donc on pourrait dire, il n'y a pas d'issue à ça, puis on peut laisser tomber, quoi. Mais pourtant, ce n'est pas une fatalité. Et je voudrais juste, avant de passer sur les choses positives, souligner, puis ça a été rappelé par le texte que tu nous as lu, Virginie, sur ces pharisiens, etc., là, donc ces gens religieux, qui amènent cette femme, hein, avec la loi, etc. Et une des choses qui occupe de la place et qui fait du tort, c'est ce qu'on pourrait appeler le légalisme, hein, qui est bien illustré par ce texte-là. Ils savaient ce qui était vrai que la loi disait. Puis c'était vrai, la loi le disait. Hein. La loi dit, il faut lapider. Donc c'était vrai dans le sens où ce n'était pas faux. Hein. L'information était vraie. Mais ils étaient dans l'erreur. Pourquoi ? Parce que quelqu'un de légaliste, et je parle pour moi, c'est lorsque il n'y a plus de place en moi pour autre chose que ma façon de penser. Et même si c'est rempli avec des bouts de textes bibliques, c'est ma façon de penser, c'est la bonne, c'est la seule, c'est la meilleure. Et non seulement ça, parce qu'encore si j'étais légaliste que pour moi-même, ça serait triste pour moi, mais ça s'arrêterait là. Mais en général, quelqu'un de légaliste pense que son devoir, c'est de l'imposer aux autres. Donc il n'y a pas de place en moi pour autre chose que ma façon à moi de penser, et vous devez penser comme moi, sinon vous avez tort. Et Jésus est contre ça. Ça ne veut pas dire que la vérité est relative. Comme l'a rappelé Marc, la vérité c'est Christ. C'est une personne vivante et personne ne peut dire « je possède Christ ». Non, j'essaie de lui appartenir, c'est autre chose. J'essaie de lui appartenir. Il ne m'appartient jamais. Non, ce n'est pas possible. Donc le légalisme, c'est une façon d'être rempli, mais de ne pas avoir de place pour Christ, de ne pas avoir de place pour la bienveillance, de ne pas avoir de place pour l'amour. Et on a l'impression que c'est pas mal parce que c'est vrai ce qui est là. Oui, la Bible dit ça. Hein. Oui, le texte dit ça. Mais un signe, et encore une fois, chacun doit l'utiliser que pour lui. Hein. Je n'ai pas le droit d'utiliser ça pour parler de quelqu'un d'autre. Mais je sais que pour moi, ce qui me guide, c'est que je me dis, est-ce que ce que je manifeste, ça donne la vie ou ça tue ? Hein ? Est-ce que ça élève ou ça condamne ? Est-ce que ça fait du bien dans la bienveillance ? Parce que le but a été atteint. À la fin, Jésus dit à cette dame, va et ne pêche plus. Hein. Mais ça, c'est le résultat. Il n'a pas commencé à l'envers comme auraient fait les pharisiens, hein, ou comme on peut tous faire nous, parce qu'on est tous légalistes en nous-mêmes. Donc on se retrouve, maintenant je ferme cette parenthèse-là, mais elle est importante, avec je suis plein de moi-même, ou de mes façons de penser, ou de ma vérité, etc. Et du coup, il n'y a pas de place pour accueillir. Hein. Quand c'est plein, c'est plein. Alors il y a une façon, j'allais dire, violente pour qu'il y ait de la place qui se fasse, et ça arrive. Virginie a parlé de deuil, Marc aussi ce matin, on a tous des situations difficiles. La douleur, l'épreuve, la maladie, le deuil, ça fait de la place. Ça fait mal, mais ça fait de la place. Hein. Et c'est d'ailleurs pour ça que la Bible dit dans plein de versets, Jacques, Pierre et d'autres, considérez comme un sujet de joie les diverses épreuves. Ce n'est pas parce que ça fait plaisir à Dieu. Ah, cette espèce d'humain qui m'emmerde du matin au soir, ben là, ils vont un peu souffrir et ça équilibrera un petit peu. Ah, ça me fait plaisir. Puis nous, on devrait se réjouir parce que Dieu est content. Non, c'est tordu. C'est méchant. C'est de l'idolâtrie parce que c'est faire de Dieu ce qu'il n'est pas. Non. On ne se réjouit pas de l'épreuve parce qu'elle fait mal. Dieu ne veut pas nous faire mal. Mais cette épreuve qui n'est pas bonne en elle-même dans le sens où elle fait du mal, hein, elle a quand même un aspect positif. C'est qu'elle fait du vide. Et c'est pour ça que ça fait mal d'ailleurs. Hein. Une partie de nous a été arrachée et on sait que ce soit dans le deuil ou dans autre chose, hein, une séparation, un divorce, une trahison, un abandon, quoi que ce soit, ou la souffrance physique aussi, mais ce qui fait mal justement, c'est qu'une partie de nous a été arrachée, puis pas arrachée gentiment après anesthésie, etc. Hein, c'est... Il y a un morceau qui est arraché, hein, le mot arraché il est fort, hein. Il reste des fibres d'un côté et de l'autre, là. Mais ça fait de la place. Et dans ces moments-là, spontanément, on est accueillant envers Dieu, parce que là, la douleur est là, c'est vide, ce vide est insupportable, c'est même pas cicatrisé. Et là, on aspire Dieu et il nous remplit. Et c'est pour ça que paradoxalement, nos expériences d'accueillir Dieu les plus fortes sont souvent dans ces moments de souffrance, de deuil, de difficulté. Donc, voilà. Mais on ne peut quand même pas souhaiter que tous les jours de nos vies nous arrive une nouvelle catastrophe pour accueillir Dieu tous les jours. Ce n'est pas ce qu'il veut. Quand ça arrive, ben oui, c'est une réalité. Hein. Donc, il doit y avoir une autre possibilité. Hein. Et là, on a besoin de comprendre ça pour le vivre. Hier, j'ai eu le privilège de passer un petit moment avec Béatrice, la sœur de Pascal, pour ceux qui connaissent, et la fille d'Elisabeth, Reichen, qui est venue du Brésil voir sa maman 3 semaines, qu'elle voit 3 semaines par an. Hein. Et puis, pour ceux qui connaissent Elisabeth, pour ceux qui ne la connaissent pas plutôt, c'est une dame qui est dans un home et qui perd gentiment sa mémoire, mais vraiment. Mais qui encore reconnaît sa fille, quelques personnes avec qui on peut avoir une petite discussion. Hein. Je vais la voir assez régulièrement. Et puis, Elisabeth et sa fille se téléphonent. Alors, vous imaginez quelqu'un qui a presque plus de mémoire au téléphone, c'est compliqué. Hein. Mais elles arrivent à parler 2 fois par semaine, presque 3 quarts d'heure. Quoi. Puis c'est ce qui est assez miraculeux, parce que c'est pas toujours simple. Et puis, Béatrice, elle veut tellement bien faire avec sa maman qu'elle parlait avec l'équipe qui s'occupe d'elle. Et puis, elle disait, mais qu'est-ce que je peux faire pour elle ? Et avec beaucoup de sagesse, une des animatrices, qui est une chrétienne d'ailleurs, mais lui a dit, lui donner du temps et de l'amour. Du temps et de l'amour. Et puis, j'écoutais ça et j'ai dit, en même temps, elle ne pouvait pas se tromper en te disant ça. Parce que de quoi ont besoin les êtres humains à part du temps et de l'amour ? De rien. Ouais, un peu de pain et d'eau et quelques trucs avec. Mais on a besoin de temps et d'amour. De temps parce que sur Terre, nous vivons dans le temps et que si je dis à quelqu'un que j'aime mais que je n'ai pas de temps pour lui, ce n'est pas vrai. Parce que sur Terre, tout est lié au temps. Hein. C'est pour ça que souvent, c'est plus facile de donner de l'argent comme cadeau, ou d'acheter quelque chose, ou d'offrir quelque chose, mais ce n'est pas de l'amour. On peut acheter quelque chose par amour, c'est vrai, hein, mais la vraie valeur, c'est le temps, et la vraie, vraie valeur, c'est lorsque ce temps est rempli d'amour. Et ça, c'est tellement difficile, parce que ça veut dire qu'il faut s'arrêter, arrêter de faire, arrêter de vouloir faire, arrêter d'essayer de produire quelque chose, de satisfaire autre chose, de juste être là, au présent, avec rien d'autre que ben, je suis là et je veux accueillir. Et c'est très difficile. C'est la chose la plus difficile du monde. C'est assez incroyable de voir que la période des vacances, où théoriquement on doit avoir du temps, c'est la période où souvent on a le moins de temps disponible pour nous, pour Dieu et pour les gens. Hein. Parce qu'on est en vacances, alors il faut aller de la plage à la montagne, à la mer, prendre l'avion, le train, monter, descendre, des activités, s'occuper de ci, de ça, préparer les repas. Pour les... L'été arrive à la fin de l'été, on se dit « c'est bien quand même, on va pouvoir se reposer un peu, hein, les vacances sont finies ». Et Dieu est là, lui, vacances, pas vacances, lundi, mardi, mercredi, jeudi, samedi, dimanche. Hein, et juste il attend qu'on l'accueille et qu'on fasse un peu de place pour lui. Hein. Et c'est Gustave Thibon qui disait « Il n'y a rien de plus encombré qu'une âme vide. » Il n'y a rien de plus encombré qu'une âme vide. Alors c'est compliqué parce qu'on ne sait pas par quel bout commencer. Mais en fait, le point de départ, c'est qu'il faut, vous savez, il faut un peu d'eau pour amorcer une pompe. Hein. Vous connaissez ce genre de pompe dans le sud de la France, l'eau c'est toujours compliqué. Et à une période, mon papa avait un petit jardin hors de la ville, et puis il y avait une de ces pompes là, à main, comme ça. Hein. Mais si on allait sur le terrain sans amener 2-3 bouteilles d'eau, ben, on ne pouvait rien faire, parce qu'il y avait une nappe phréatique pleine d'eau, à 3 mètres dessous, c'est pas loin. Hein. Il y avait la pompe, mais il fallait l'amorcer. Puis il fallait ces 1 ou 2 bouteilles d'eau pour verser, pomper. Et puis alors après, on pouvait remplir les bouteilles, on pouvait tirer de l'eau tant qu'on voulait, il y avait de l'eau à volonté. Elle n'était pas loin. Mais il fallait cette petite... Et souvent, c'est ce qui nous manque. Hein. On est encombré de tout sauf de Dieu, on est vide et Dieu est là et il y a tout l'amour du monde et plus infini qui est là. Et puis nous, on meurt de soif et on ne sait pas par où commencer. Et je ne vais pas vous donner ce matin un truc pour le faire, je ne l'ai pas. Si je l'avais, je ferais un livre dessus, je serais riche sûrement. Ce n'est pas le cas. Mais quand même, ce qui est toujours incroyable, c'est que... Au départ, ça vient de lui. Même la bouteille d'eau pour amorcer la pompe, elle vient de lui. Et d'une façon ou d'une autre, que ce soit parce que le moment est difficile, parce que tout d'un coup on décide de le faire et de dire à Dieu, bah écoute, il n'y a pas de place pour toi dans ma vie, mais je ne suis même pas capable de faire le ménage. Alors je vais au moins faire une chose, parce que ça je peux. C'est là où la discipline s'utilise, ce n'est pas pour devenir meilleur. Hein, c'est pas pour prendre des bonnes résolutions, c'est pour dire je m'arrête et maintenant je vais attendre que tu fasses quelque chose dans ma vie. Je vais pas entamer un nouveau projet, une autre activité, un nouveau là. Donne-moi le litre d'eau pour amorcer la pompe. Hein. Viens m'aider à faire un peu de ménage. Fais de la place en moi. Et ça va peut-être vous faire sourire, mais à la fin de préparer ce message, je m'étais mis en boucle. Cette chanson écrite par deux chanteurs que j'aime pas spécialement, d'ailleurs, je sais plus comment ils s'appellent. Fais-moi de la place dans ton cœur, un truc hyper romantique. Là. Fais-moi de la place dans ton cœur. Et puis c'est chanté par Morane et Christophe Willem. Tout. Mais le refrain, je trouve ça tellement beau. Fais-moi de la place dans ton cœur. Quoi, hein. Fais-moi de la place dans ton cœur. Et même si Dieu est en droit d'exiger, de dire, écoutez, c'est moi qui vous ai créé, je me suis retiré pour vous faire de la place. Maintenant, il y en a marre, j'arrive. Hein. Hop, voilà. Intervention. Non, il est là et puis doucement, petite mélodie, fais-moi de la place dans ton cœur. Et puis là, mais j'ai même pas la force de venir ouvrir la porte, ça fait rien, j'entends à travers les portes, entre. Il vient, il ouvre la porte et puis comme il a fait avec Pierre dans Jean 21, hein, Pierre qui a échoué à la pêche, qui a tout raté, qui n'arrive pas, et puis il y a déjà du feu, il y a déjà du pain, il y a déjà du poisson. Ben, on prend aussi celui que tu as pêché après, mais le début, c'est toujours lui qui commence. Quoi. Mais juste, nous, on doit avoir... Et donc, nous, on a besoin d'offrir un peu de temps. Et il n'y a que l'amour qui peut faire cette place-là. Et en fait, C'est tellement simple que ça en est compliqué. Mais j'arrive pas à comprendre comment je peux passer des jours sans le faire. C'est inexplicable. Mais je le fais. Et je suis là, et je cours, et je suis dans mes choses à faire, et puis je me plains, ça va mal, il y a ci qui va pas, il y a ça, ou le reste, ah, le monde va mal, etc. Oui, c'est vrai, le monde va mal, je vais mal aussi, et puis etc. Mais il n'y a rien qui fait que je ne peux pas m'arrêter, et puis dire à Dieu, ce morceau de temps, je fais de la place dans mon temps, pour que tu viennes me toucher par ton amour, et que ça puisse remettre les choses dans le bon ordre dans ma vie. Après, à la fin, oui, il y aura « va et ne pêche plus ». Évidemment, c'est une conséquence. Mais ce n'est pas le point de départ. C'est l'arrivée, au contraire. Jusqu'à la prochaine fois. Alors, c'était juste ces pensées que je voulais vous laisser. Et puis, entre autres, cette réflexion m'est venue en lisant un très bon livre que je vous conseille pour l'été, si vous ne l'avez pas déjà. « Éclat d'évangile » de Marion Muller-Collard. C'est des méditations pour chaque jour. C'est un très, très beau livre. Et elle termine sa méditation sur ce sujet par ce petit texte qu'elle a écrit et que je vous lis. « Réduis-moi, Seigneur, réduis-moi à l'essentiel, au noyau dur de ma foi. Réduis en moi l'espace occupé par moi-même pour y laisser une place à l'autre qui te ressemble. Réduis en moi la peur pour élargir la place laissée à la confiance. » Réduis en moi les aléas de mes humeurs pour dégager dans mes brouillards la clarté de ton fil conducteur. Qu'enfin, si je me retire, ce ne soit plus par lâcheté ou par indifférence, mais pour le bonheur de découvrir un frère. Et lorsque je me fais petite, c'est une dame qui a écrit, que ce ne soit pas par orgueil, mais pour te laisser grandir dans mon insuffisance. Seigneur, nous te demandons que tu nous fasses cette grâce de te laisser de la place. Et même pour ça, nous avons besoin de toi. Nous sommes incapables de le faire. Mais nous voulons t'inviter à le faire, te donner le droit de le faire, même si tu as tous les droits. Nous voulons dire « entre et pose le repas sur la table ». Et nous voulons nous asseoir avec toi. Et nous laisser remplir par ton amour qui est la seule chose qui compte. Qui est la seule force qui puisse nous transformer, nous rendre meilleurs, nous donner de l'énergie pour marcher encore un pas, encore un jour, par ta grâce. Merci pour ta bienveillance, merci pour ta bonté, et que nous puissions, jour après jour, prendre cette décision de te faire de la place dans nos cœurs pour t'accueillir, au lieu d'être préoccupé par devenir plus grand. Et que cet amour puisse nous faire devenir grand en toi, grand de ta bonté, grand des fruits de ton esprit, grand de tous les dons que tu nous as partagés, et que ce soit toi qui sois l'auteur, l'énergie de toute cette grandeur qui vient de toi, Seigneur. Nous voulons te faire une place dans nos cœurs. Sois béni pour cela.